Y el Señor me acuerdo en su monastère d'une belle manière.
Non, c'est pas
mais ça. Je crois pas ici pour vous raconter seulement comment je suis arrivé là, mais pour Coucou. La prière des moines et des
réfugiés.
Alors je vais commencer peut-être par lire un simple deux passages bibliques qui pour moi entre autres des bons passages qui peuvent permettre de comprendre ce qu'est la prière. Et comment est-ce qu'un chrétien doit prier? Voilà ce que saint Paul écrit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 16 et 17. Restez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous. Dans le Christ Jésus. Et le second passage, qui est une parabole que Luc reprend que peut-être vous connaissez. C'est dans Luc 18, c'est la parabole du pharisien et du publicain. Alors, Jésus disait encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres. La parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le publicain, c'est le collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme sur tout ce que j'acquiers. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, la prière du moine, elle se développe sous plusieurs formes, mais elle est une. Dans le sens où, d'abord, c'est une prière ecclésiale, la prière des moines. C'est-à-dire, c'est une prière qui appartient à l'Église. Dans certaines paroisses, peut-être, on va dire, où la pratique est un peu plus marquée, il y a parfois dans la pratique des offices d'évêques ou des laudes dans certaines églises. Et donc, c'est pas réservé aux moines de dire la prière des laudes ou des vêpres. C'est une prière aussi communautaire et personnelle. Et elle s'inspire de l'Esprit Saint, parce qu'il y a dans un autre passage biblique, Saint Paul nous dit que l'homme ne sait pas prier et que c'est l'Esprit Saint qui prie en lui. Et la preuve en est, le Christ nous donne la plus belle prière qu'on puisse dire, le Notre Père, qui est la prière que l'Esprit Saint, que le Christ dit en nous par l'Esprit. Donc la prière des moines est ecclésiale parce qu'elle s'intègre pleinement à l'Église. Elle est communautaire parce que les moines, notre communauté, enfin toute communauté, même apostolique, qui récite un office en commun, vivent ensemble dans un même monastère, enfin dans notre cas, dans un même monastère, sous une même règle, à savoir la règle de Saint-Benoît, et sous la direction d'un abbé. C'est-à-dire d'un responsable de communauté que les frères se sont choisis. Ils vivent ensemble, c'est-à-dire qu'ils prient ensemble et qu'ils travaillent ensemble pour le bien de la communauté. Alors, Saint Benoît dira que le moine fait le leitmotiv, c'est « ora et labora ». Ça veut dire quoi, ça ?
Ora
et Le aura, c'est quoi?
Je sais pas.
Et l'abora? C'est d'abord la prière, ensuite
le travail.
Donc les moines ont 6 offices par jour. On se lève à 6h le matin et on se couche à 10h le soir. Et toute notre journée est rythmée de différents offices. Alors vous avez les lodes à 6h30. Tierce à 8h15. Vous avez nonne à 14h30. Les vêpres à 6h10 et les vigiles à 21h. Sans oublier la messe qui est célébrée chaque jour à midi ou à 11h au dimanche. En termes de temps, ça représente entre 3h et 3h40 par jour où tous les moines prient ensemble. Alors comment se passent un petit peu ces offices? D'abord, nous commençons par chanter un chant ou une hymne. Et après ça, nous chantons ou nous psalmodions les psaumes. Et ce sont les mêmes psaumes avec lesquels Jésus priait. Ces psaumes que les Juifs ont été écrits quelque chose comme 1500 ans, je crois, avant le Christ. 1500 peu près. On dit que c'est surtout David qui met. Donc David, c'est 1000 ans avant le Christ, à peu près. On chante les mêmes psaumes que les Juifs chantaient avant le Christ. Et que Jésus a lui-même prié. Ensuite, il y a toujours un verset biblique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la prière litanique. Cette prière litanique, c'est un moment où le diacre va nous inviter à prier pour telle ou telle chose, ou rendre grâce à Dieu pour telle ou telle chose. Pour Dieu, pour la bonté de Dieu, pour la bonté de Dieu elle-même et pour les merveilles qu'il nous donne. Et aussi en intercédant pour ceux qui nous demandent de prier. Et à la fin, il y a toujours une oraison finale qui conclut l'office, mais qui pour nous introduit dans un autre rythme de prière, qui n'est plus une rythme de prière communautaire, mais un rythme de prière personnel. Il y a aussi un point intéressant, ce que fait l'Angélus.
C'est une prière.
Non, c'est quand les cloches sonnent. Et ça veut dire que s'il faut commencer à prier.
Non. Est-ce que quelqu'un sait exactement ce qu'on dit dans cette prière? Exactement. Nous le disons 3 fois par jour. Le matin, à 7h, après premier office, à midi et à 19h. Alors quand on a des coups, c'est un peu séparé comme ça, c'est souvent, vous pourrez dire Angélus. Voilà, mais la prière des moines, c'est aussi une prière personnelle, dans la mesure où après la messe et après les vêpres, on a toujours un temps de prière individuel, un temps d'action de grâce, donc le matin après la messe. Je crois que... Et après les vêpres, parce qu'il y a toujours un temps de prière personnelle dans la basilique pour continuer notre journée. Le matin, les moines commencent et finissent par la Lectio Divina. Ça veut dire quoi, Lectio Divina? Ça veut dire que le matin, c'est juste après les laudes, et le soir, après le deuxième chapitre du soir, il y a ce qu'on appelle un temps pour lire la parole de Dieu, pour qu'elle puisse la laisser nous creuser. Enfin, pour lire la parabole du pharisien et du publicain, dire où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis comme le pharisien qui dit, moi je prie le bon Dieu comme il faut, comme on m'a demandé de faire, et ou alors est-ce que je suis comme le publicain et je me dis que je vois mieux que les autres? Et le soir, c'est aussi un temps de lecture et de l'écoute de la parole de Dieu, ou des récits spirituels des saints. Les moines prient avec les mêmes méthodes que les baptisés. Alors, on peut prier avec le chapelet, continuant dans son chapelet. On peut prier en adorant le Saint-Sacrement, comme on le fait tous les vendredis soirs et le dimanche soir après les vêpres. On peut prier dans l'oraison silencieuse, ou alors le moine se met en présence de Dieu dans une écoute amoureuse. C'est pas très agréable pour ceux qui sont.
Vous pouvez prendre vos livrets, page 81, ce serait plus intelligent. Vous notez deux, trois choses que votre frère est en train de vous dire.
La troisième forme de prière, c'est toujours personnelle, et ça peut peut-être vous étonner, c'est le travail. Alors, certains ont travaillé en groupe, d'autres ont travaillé individuellement. Mais le travail est une forme de prière, parce qu'on essaie de travailler en silence, si notre métier le permet. Bon, je travaille au magasin, j'encaisse les achats, je suis forcé un peu de parler. Il y a parfois du bruit de machine, de tondeuse, mais n'empêche qu'on peut toujours essayer d'intérioriser et de garder un temps de silence pour intérioriser la parole qu'on lit après chaque office. À chaque office, on lit toujours un bout de la parole de Dieu, un bout de la Bible. Ainsi, même le travail des moines est appelé à devenir davantage prière. Prière comment ? Peut-être par le service que ça représente. Pour moi, pour notre magasin, pour l'accueil des gens. Pour celui qui fait la cuisine, en faire la cuisine en pensant, on va dire faire la cuisine avec amour pour les frères et les autres qui ont mangé le repas au réfectoire, parce que au réfectoire où on mange, il y a aussi les autres hommes qui font leur retraite, qui mangent avec nous. Prière de communion avec les travailleurs qui peinent dans le monde. Prière silencieuse à travers l'accueil. Prière à travers des gestes répétitifs. Pour rendre grâce à Dieu qui nous donne tous ses biens et qui nous permet d'être transformés par le fruit de notre travail. Saint Benoît dira quand même deux choses très essentielles sur le travail. Que l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. L'oisiveté, c'est la paresse, se tourner les pouces et ne rien faire. Il dit aussi autre chose, le moine sera vraiment moine s'il travaille de ses mains. Alors, il faut savoir que dans l'Église, vous savez sûrement qu'il n'y a pas que des catholiques. Il y a d'autres confessions. Les orthodoxes, oui. Oui.
Les anglicans.
Et parmi les protestants,
luthériens,
calvinistes, évangéliques. Bon, il y a une grande panoplie d'églises.
Il y a le calvinisme. Voilà.
Donc, la vie monastique. Tant cénobitique qu'hérébitique, cénobitique c'est une vie communautaire, une vie monastique ou en groupe, existe dans l'église catholique ainsi que dans l'église orthodoxe et sous certaines formes dans l'église protestante, même dans l'église anglicane. Et la prière est ce qui est commun à ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à Dieu. Et c'est très important. Alors par exemple, je vais vous parler de Silouane. Quelqu'un connaît Silouane ? Silouane du Mont Athos, ça vous dit quelque chose ? Alors Silouane, c'est un moine orthodoxe russe qui est descendu en Grèce pour vivre une vie monastique sur la presqu'île de Grèce au Mont Athos, qui est uniquement réservée religieux aux hommes. Alors voilà ce qu'il dit. Selon lui, le moine est celui qui prie et pleure pour le monde entier. Cette approche de la prière peut sembler bien triste, mais en fait, elle cache un amour qui n'est pas un amour humain, un amour, on va dire, qui serait indifférent aux valeurs des autres, mais un amour divin, dont Dieu est l'origine et le terme. Dans un autre passage, il dit aussi que celui qui prie pour le monde verse son sang, verse le sang de son propre cœur. Ça veut dire qu'il donne sa vie à Dieu et aux hommes par la prière. C'est-à-dire que quand on prie, on se relie aux hommes. Quand on pense à quelqu'un, à nos parents ou à des amis qu'on aime, eh ben, on se relie à eux. Donc la prière, on va dire, c'est un travail, la prière. C'est une grâce, et c'est un travail, c'est un effort sur soi.
Vous marquez ça, très intéressant. La prière, c'est un travail, c'est une grâce.
Mais c'est d'abord une grâce, parce qu'on ne peut pas prier sans...
C'est une grâce et un travail. Voilà.
Mais je vais revenir sur la grâce, la prière. Et puis il disait une chose aussi, Silouane a reçu aussi une vision du Christ. Dans cette vision du Christ, où il disait le Christ m'est apparu, et c'était à propos de l'orgueil. crois que c'est à propos de l'orgueil qui disait ça. Ah non, ça je confonds avec un autre moine orthodoxe. C'est pas Saint-Silouane. C'est un autre qui disait que par rapport aux tentations et à l'orgueil, le Christ est apparu, il lui avait dit, mais où est-ce que t'es, etc. Et le Christ lui a répondu, reste en enfer et persévère toujours et n'abandonne jamais la foi. J'ai plus
quelque chose. Saint-Silouane.
C'est pas Silouane ça. Je ne crois pas que ce soit Silouane. Je crois que j'ai noté quelque part, ça mériterait d'être trouvé.
Oui.
C'est Silouane, effectivement. C'est Silouane. Mais je comprends. C'est Silouane qui était un orgueilleux, effectivement. Il disait, voilà, et le Christ disait, tiens-toi en enfer et ne désespère jamais de la miséricorde de Dieu. Pense à autre chose. Un des fruits de la prière, c'est la paix intérieure qu'on ressent lorsqu'on... Mais ça, c'est encore un don de Dieu. Quand on prie, ce n'est pas nécessaire que la paix vienne. Ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est Séraphin de Sarov qui disait, acquiers la paix et des milliers autour de toi auront la paix.
Qui dit ça? Acquiers la paix.
La paix intérieure et des milliers autour de toi auront la paix. Ça veut dire que par la prière, la paix que l'on acquiert, qui est un don qu'on reçoit, elle se communique de même que si jamais on fait le mal, si on fait des bêtises, et ben c'est plutôt l'inverse qui se propage autour de nous. Je crois que, pas besoin de vous le dire, le monde aujourd'hui en est la preuve vivante, mais le monde n'est peut-être pas aussi pire qu'on veut bien le penser.
Mais tout ce qui acquiert la paix, des milliers autour de toi auront la paix. Et ça, c'est qui ça?
Saint-Séraphin de Sarov. Alors, il y a une prière très belle que je trouve qu'on a retrouvée dans la prière du publicain et que les orthodoxes disent souvent sur un chapelet, ce qu'ils appellent un chotki, chapelet comme ça, il y a 100 grains. Alors, on dit Seigneur Jésus-Christ, occupez de moi, pécheur. Et les orthodoxes le répètent quasi toute la journée, ou 1000 fois, ou 500 fois, ou par jour. Mais c'est une prière répétitive qui permet de rentrer dans cette démarche de savoir que Dieu est à l'origine de notre vie et que son amour nous pardonne nos péchés et en même temps nous renouvelle simplement de notre état. Moi, je ne suis qu'une créature et vis-à-vis de Dieu, je ne suis qu'une créature. Aussi merveilleuse que Dieu a voulu que je sois, chacun de nous, on reste pécheur. Et ça, il ne faut pas qu'on se mette au-dessus de Dieu. Ensuite, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dit une chose importante sur la prière. La prière est une grâce de Dieu. L'oraison et le recours spontané à Dieu sont des dons d'en haut. La prière, loin d'être uniquement formée par rapport à des formules qu'on répète, la prière est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. C'est ce qu'elle raconte dans ses manuscrits autobiographiques. Il y a un autre enseignement que je trouve très intéressant de Basile, un père du 4e siècle de l'Église. Il décrit la prière de la manière suivante. Il y aurait beaucoup de citations qu'on pourrait donner, mais si vous retenez au moins ça, c'est important. Il ne s'agit nullement d'enfermer la prière dans des mots. Sa puissance tout entière est dans l'intention du cœur, dans l'amour qui embrasse toute la vie. Lorsque vous priez pour quelqu'un que vous aimez, un parent malade, et vous pensez à quelqu'un que vous aimez, l'amour monte naturellement de votre cœur. C'est pareil pour la prière. C'est aussi simple que ça. Alors, citant une phrase de saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, où saint Paul dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voici comment Saint Basile commente ce passage. Te mets-tu à table, prie, prends du pain, rends grâce. Souviens-toi toujours de celui qui te le donne pour ta joie et ton réconfort. Tu n'as plus faim, n'oublie jamais de remercier ton bienfaiteur. À savoir que dans nos offices, lors de nos repas, il y a toujours une prière au début d'un repas, et il y a toujours les grâces à la fin. De même, t'habilles-tu, rends grâce à Dieu qui t'a donné de quoi te vêtir. Il faut continuer ainsi pendant longtemps. Le jour vient-il à son terme, rends grâce à Dieu qui a fait le soleil, qui a créé le feu. Aujourd'hui, simplement pensez à l'électricité quand vous tournez un interrupteur. Ça veut dire penser à l'économiser, mais penser à rendre grâce à Dieu parce que c'est une belle invention. Pour éclairer notre... rendre grâce à Dieu qui a créé le soleil et le feu, pour éclairer notre nuit, car il pourvoit à tous tes besoins. Vous allez me dire, mais oui, mais dans tout ça, et la prière des baptisés. La prière des baptisés est identique à celle du moine, à celle des moines. Dans la pratique, mais pas forcément dans leur intensité ou dans leur régularité. En tant que baptisé confirmé, ou vous qui vous préparez à la confirmation, c'est bien plus qu'un devoir de prier sans cesse. Vous allez me dire, comment peut-on prier sans cesse? Regardons, revenez à Saint Basile, revenez à ce que dit Sainte Thérèse et l'Enfant du Cœur. C'est vital, c'est comme la respiration. Si vous arrêtiez de respirer, qu'est-ce qui se passerait? Vous mourriez. Et vous ne pouvez pas arrêter de respirer. Si vous arrêtez de boire, vous mourriez aussi. La prière, c'est aussi vital que boire de l'eau, que respirer de l'air ou manger. La prière, qui est un don de Dieu, nous permet de grandir dans la foi et de persévérer dans le combat contre le mal et ses tentations. Donc certains laïcs aujourd'hui récitent l'office des lourdes ou des vêpres personnellement chez eux ou à l'église dans une paroisse avec un petit groupe. La prière du chapelet est une excellente prière méditative de la vie de Jésus avec Marie quand Jésus était sur terre. La prière répétitive de formules telles que la prière de Jésus, donc, Seigneur Jésus, Christ, aie pitié de moi, pécheur, ou une autre formule qui nous parle particulièrement au cœur, est une bonne arme contre les tentations et contre l'oisiveté. Je crois que la prière, pour moi, c'est avant tout un acte de liberté. Donc c'est ça que vous devez peut-être davantage retenir, c'est que c'est un acte libre. Mais un acte libre, c'est un acte libre dans le sens où je sais que c'est bon de prier, donc je vais prier, même si j'y vais, et combien de fois il m'arrive d'aller à l'office en traînant des pieds, je dis mince, j'ai encore l'office des lèvres, j'en ai pas envie d'y aller, je suis fatigué, j'ai envie de faire autre chose, et bien j'y vais quand même, même en traînant des pieds, j'y vais. Parce que la prière, pour moi, je dis, c'est vital.
Vous marquez ça, la prière est un acte de liberté.
Mais pas de liberté de faire n'importe quoi. C'est ça le combat spirituel du priant. Pas de faire n'importe quoi, mais de savoir que si je m'engage librement dans ma vocation monastique, si un jour j'en ai marre, et ça m'arrive régulièrement d'en avoir marre, de tel ou tel frère ou de moi-même ou de la vie monastique en général, et bien je continue parce que je sais que ma voie elle est là, elle est toute droite devant moi. Mais elle n'est pas toujours facile. C'est vraiment un acte libre. La liberté telle, pleine et totale, c'est de se dire, je sais que c'est bon, donc je le fais, même si ça me fait. Alors qu'aujourd'hui, on vous apprend exactement le contraire. On vous apprend à faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Et ça, si on ne vous le dit pas, que si vous suivez cette voie-là, je vous assure pour vous une vie de malheur. Je suis dur en disant ça, mais en écoutant vos envies à la seconde, en suivant cette société qui vise dans tout dans l'immédiateté, vous avez droit à l'insatisfaction, même si vous êtes richissime, milliardaire, et vous avez toutes les choses matérielles possibles autour de vous. C'est une des raisons qui m'a poussé à rentrer dans ce monastère. Je gagnais bien ma vie, j'aurais pu faire pas mal de choses, mais je n'étais pas heureux. Et le vrai bonheur pour moi n'est pas dans l'avoir d'argent, dans l'avoir de choses. Ce n'est pas dans l'avoir de relations seulement qui sont toujours faciles et réconfortantes, consolantes. C'est dans le savoir que je suis dans ma voie de moine et que je suis fidèle. Et même si je peine, savoir que je suis assuré que Dieu m'aime et que il m'aidera jour après jour sur mon chemin pour aller jusqu'au bout de ce que je veux. Ça, pour moi, c'est la source du vrai bonheur. Et puis, il y a une chose très importante au niveau de la prière, c'est le recours à deux sacrements qui, pour moi, sont absolument essentiels. Ce sont j'essaie de trouver une comparaison, mais quand on est malade, c'est un peu les médicaments. Quand on a soif, c'est de l'eau. C'est le recours au sacrement d'Eucharistie et le sacrement de réconciliation. L'Eucharistie, vient renouveler vos forces, la force de votre foi. Et je peux vous dire une chose, si je n'avais pas l'Eucharistie quotidienne, je ne crois pas que je puisse tenir dans la vie monastique avec mon propre caractère et avec le caractère de mes frères. Car aussi merveilleux que chacun de nous, des frères de la communauté moins inclus peuvent être merveilleux, on peut être aussi très chiant. Et donc on ne peut pas tenir sans une force. Cette force-là, c'est l'Eucharistie. Mais que se passe-t-il? Parce que dans une communauté, dans une famille, il y a souvent des discordes, des points de discorde, des engueulades. Et bien à ce moment-là, il faut recourir au sacrement de réconciliation. Et le sacrement de réconciliation, il ne faut pas y aller deux fois par an. J'essaie de le pratiquer tous les 15 jours, et je pourrais le pratiquer tous les jours. Parce que pour moi, le sacrement de réconciliation pour l'Église, c'est le sacrement qui vient restaurer ma relation, qui vient restaurer mon baptême, ma relation à Dieu, ma relation aux autres. Et c'est tellement essentiel. Mais aujourd'hui, on n'ose plus dire « je suis un pauvre mec, je suis un pécheur ». Et j'ai envie de vous dire, vous êtes tous des pauvres mecs et tous des pécheurs. Et vous êtes tous des pauvres mecs aimés et pardonnés de Dieu. Alors je ne dis pas ça pour vous insulter, vous le comprenez sûrement. Je dis ça pour vous remettre en face une réalité, que vous êtes ce que vous êtes, vous avez reçu l'éducation que vous avez reçue, vous avez subi telle ou telle blessure dans votre enfance, dans votre adolescence, vos parents sont peut-être séparés, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui nous sont difficiles, mais qu'on peut petit à petit, par le sacrement de réconciliation, demander pardon et petit à petit corriger, même si on retombe toujours dans telle faute. Et bien, quand je retombe toujours dans la même faute, moi je vais voir mon confesseur et dire j'ai encore fait la même faute. Et je reçois le pardon de Dieu. Sans ça, sinon c'est comme si j'acceptais que telle faute me bouffe comme ci, comme ça, et puis après ça je suis complètement dedans et je fais pas mon sort. Ça demande un effort. Ça nous humilie. Moi, il y a des fois, je n'ai pas envie. Je dis, j'ai fait telle connerie, je vais aller voir mon confesseur. Je n'ai pas envie parce que là, croyez-moi, quand je parle de Dieu, il y a des anges, des bons anges et des mauvais anges. Il y a Satan qui vous dira le contraire. Mais c'est pas si grave que ça. T'inquiète pas. Mais l'autre aussi était en tort. T'en occupe pas. Même si l'autre était en tort, ce n'est pas une raison. Parce que le Satan, le mal, va tenter de réduire la faute comme si c'était rien du tout. Mais petit à petit, il vous anesthésie et puis il vous empêche, il vous coupe de Dieu. Ça, c'est l'expérience profonde que je vis au monastère depuis longtemps. La prière, finalement, c'est tout simple. C'est seulement une manière d'être là, devant Dieu le Père, avec Jésus, par l'Esprit Saint, dans tout ce qu'on fait. Lorsqu'on étudie, lorsqu'on en a marre, on avait dit, Seigneur, j'en ai marre. lorsqu'on va dire, mais Seigneur, où est-ce que t'es? Je suis dans la... Dans le caca, excusez-moi. Je suis dans les... J'ai des problèmes jusque-là, j'en peux plus, je ne sais pas comment sortir. Où est-ce que t'es? J'ai besoin de toi. Où est-ce que t'es? Parce qu'on a des problèmes avec sa famille, et ben c'est ça. On peut être là devant Dieu, devant le Père, avec Jésus, dans l'esprit, avec l'esprit, par l'Esprit Saint, dans toutes les circonstances de notre vie. Dans la joie, dans la peine, c'est clair. Si vous retenez ça de la prière, je pense que vous aurez compris l'essentiel. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Tu te lèves, tu dis ton prénom et que tout le monde entend bien.
Quand on rentre dans le monastère, est-ce qu'on peut en sortir en Suisse?
Quand on rentre au monastère, il y a ce qu'on appelle, il y a 5 ans et demi avant de s'engager. Alors, je vais vous décrire les différentes étapes. Alors moi, j'ai d'abord fait une retraite à Saint-Benoît, ensuite tout le week-end. Après, j'ai fait un stage comme à l'entreprise. Ça a duré un mois. Au bout d'un mois, on me demande au futur frère de repartir dans le monde pour confronter sa décision par rapport à sa vie dans le monde. Parce que dans le monastère, c'est facile. Y rester, c'est beaucoup plus dur, je vous l'ai dit. Donc il y a le stage. Et si vous aussi, mon désir de continuer, de persévérer, de creuser mon appel à la vocation monastique est toujours là, et bien je peux demander à rentrer au postulat. Ça dure un an le postulat. Donc ça, on va dire un CDD. Et au bout d'un an, si je désire continuer, alors pendant un an, j'ai pu voir un père spirituel qui m'a suivi, qui m'a aidé à discuter avec moi. Parce que tout seul, je ne peux pas discerner si oui ou non, je peux, ma vie monastique, je peux tenir dans cet appel, si cet appel est vraiment un appel sincère. C'est pas, on va dire, quelque chose dans ma tête, une fuite du monde finalement. Même si rien n'est complètement pur, il y a toujours un peu une fuite du monde quelque part. Mais celui qui fuit le monde ne peut pas rester monastère. Donc si au bout d'un an, celui qui était novicié, qui était postulant veut continuer, il rentre au noviciat. Le noviciat va durer 18 mois, avec toujours avec là pour le coup, non seulement des entretiens réguliers avec le père maître, mais avec des rencontres avec la communauté. La communauté va dire, on a vu le frère pendant son postulat, on est d'accord pour l'accueillir. Pour faire continuer l'essai. Donc le CDD d'un an va devenir un CDD de 3 ans. De 18 mois, pardon. Et après ça, tous les 6 mois, on fait un point, le frère fait un point avec le conseil des sages de la communauté. Au bout de 18 mois, si la communauté est d'accord aussi, si le frère veut d'abord demander à continuer, le frère prononce trois vœux. Alors, quels sont les vœux que prononcent les moines? Alors, levez la main, puis on se bouge seul. Vas-y. Qui a dit? Levez la main, oui.
Le chasteté.
Oui.
Pauvreté, c'est pas mieux.
Pauvreté. Il y en a que vos parents vous disent encore. Vous ne l'aimez pas beaucoup, celui-là. Hein? Tes parents te demandent d'être humble. Non, mais c'est bien. Rigolez pas. Celui que je voudrais, il rime avec l'humilité. Obéissance, voilà. C'est dur d'obéir à ses parents. Ouais. On va à d'autres. Donc, on prononce trois vœux. L'obéissance. Saint-Benoît ajoute un quatrième vœu, c'est la stabilité. Mais il va joindre deux vœux, le vœu de chasteté, de célibat et de pauvreté dans le vœu de conversion de sa vie. Donc le moine prononce ces vœux pour 3 ans. Donc faisons le calcul. 1 mois de stage, 1 an de postulat, 18 mois de noviciat. Plus 3 ans, ça fait au moins 5 ans et demi. Alors, en 5 ans et demi, on a le temps de voir un peu si l'appel qu'on a reçu de Dieu, la vocation monastique, il tient la route. Mais pendant ces 5 ans et demi, on a le temps de voir aussi que on est tout petit et bien pauvre pour répondre. Mais tout seul, je ne pourrais pas tenir. Tout seul, je ne pourrais pas tenir. Donc au bout de 5 ans et demi, je suis à différentes étapes, on peut prolonger. Le noviciat, les vœux simples. Et avant de s'engager totalement pour les vœux solennels. Mais on va dire que l'engagement d'un moine dans les vœux solennels, c'est l'équivalent d'un mariage. Une fois qu'un moine, un moine s'est engagé, il est moine. Même si, après, même si il peut choisir de partir pour des raisons qu'il faut espérer être justes. Mais même ça, ça fait des malheurs. C'est quand même vivant.
Est-ce que vous pouvez changer de monastère ?
Est-ce qu'un moine peut changer de monastère ?
Changer d'ordre.
Alors, la première, quand un frère est en difficulté, généralement, on essaie peut-être de changer de monastère, de faire une expérience dans un autre monastère de la congrégation bénédictine, par exemple, pour voir si c'est un conflit, on va dire, communautaire, personnel entre le frère et la communauté. Il est possible aussi que le frère, si ça ne va pas, puisse dire non, c'est pas ça, donc je quitte la vie monastique. Au moment du stage, c'est pas gênant. Au moment du postulat, c'est normal. Pendant le noviciat, c'est normal aussi. Et pendant les 3 ans de vœux simples, il faut faire une démarche juridique pour relever le frère de ses vœux pendant 3 ans. Quand on fait vœux pour 3 ans, on fait vœux pour 3 ans. On fait une démarche juridique pour dire ben voilà, tel frère est relevé de ses vœux pour l'année 2 ans. Sinon, si le frère, même après vœux solennels, se rend compte qu'il ne peut pas, qu'il ne tient pas dans la vie monastique, et bon, il peut essayer dans un autre ordre, les cisterciens par exemple. Ou il peut essayer dans un ordre plus apostolique par rapport à un ordre plus empathique.
Brice, est-ce que vous pouvez sortir de votre monastère ?
Mais on l'a déjà dit.
Non, on n'a pas posé la question.
Non, mais c'est pas la même. Sortir, c'est sortir, faire une promenade, un truc comme ça. Quoi.
Je pense sortir, c'est qui ? Enfin, je ne quitte pas le monastère pour rien. Je vais chez le médecin, c'est normal, je préviens par abbé ou chez le médecin. On fait tout par obéissance. C'est pas une obéissance idiote pour dire ah, je vais chez le médecin, bon. Je fais exprès de prendre un ton hier, excusez-moi. Mais c'est une obéissance qui est responsable en disant je quitte le monastère pour aller chez le médecin, pour aller à rendez-vous, pour aller à Orléans ou pour aller faire une session à droite ou à gauche. Mais je reviens au monastère. Un autre ordre très pratique, on ne mange pas en dehors du monastère, sauf si, bien sûr, on a accord du parabé. À ce moment-là, bon, si on est loin, on peut acheter un sandwich. Mais on ne va pas. Moi, à Saint-Benoît-sur-Loire, les amis qui m'invitent, je ne vais pas prendre un repas chez eux. Ça ne se fait pas. Abon, qui est le parabé de ce monastère, il était à l'Aréole près de Bordeaux. Il a repris un moine qui avait été pris dans ce délit-là. Il était parti manger en dehors du monastère. Je t'ai vu, je verrai après. Et ce moine, ça ne lui a pas plu. Comme quoi, il a pris une lance, il a tué Abon, il a tué l'abbé Abon d'un coup de lance.
C'était il y a longtemps ?
C'était en 2004. Bah oui, mais bon. Comme quoi. Vas-y.
Constantin.
Tu t'appelles comment ?
Constantin.
Oui. Pas forcément, parce qu'il y a un frère qui fait les courses, ça fait partie de son obédience. Donc lui peut y aller. Ça fait partie de son emploi.
Ah,
mais pardon, l'obédience, c'est un emploi, c'est l'équivalent d'un emploi. Puis on est livré quand même, on est livré par camion même. Tu peux t'asseoir, c'est bon. Quelle autre question ? Même sur la prière, sur autre chose, même sur...
Tu as une
Je fais souvent sur l'intervention, toutes les questions n'ont pas forcément été posées. Alors concrètement, le vœu de pauvreté, ça veut dire quoi pour vous, pour la droite? Est-ce que ça veut dire que j'ai encore des choses personnelles à la communauté?
Si, mais c'est pas qu'il y ait de...
La pauvreté selon saint Benoît, c'est pas la pauvreté selon les franciscains qui vise à... même si les franciscains aujourd'hui sont assez riches, à devenir un ordre mendiant. C'est une pauvreté où tout ce qui est au monastère appartient au monastère, mais n'appartient pas à un frère. Vous allez me dire, heureusement que mon t-shirt n'appartient qu'à moi, parce que sinon, si je prends le t-shirt d'un frère qui n'est pas trop grand pour moi, ça n'ira pas du tout. Mais la nuance, c'est qu'on a l'usufruit. C'est un terme technique pour dire qu'on a l'usage de nos biens, mais on n'a pas la propriété. Oui,
Grégoire. Dans certains monastères, il y a des frères qui ont des noms assez spéciaux. Est-ce que c'est vous qui les choisissez ou...
Par exemple,
il y en a qui ont des maris à la fin.
Ça, c'est les Francis, c'est les cisterciens qui ont tous systématiquement mari au début ou à la fin.
Il y a plein d'autres noms qui n'ont rien à voir avec leur prénom.
Parce que ça dépend aussi des congrégations. Moi, je fais vœu de stabilité dans ce monastère, et pas dans le monastère dans Calca, ni de la Pierre qui vire, ni de Belloc, ni dans des Vénèques, qui sont pourtant des monastères de notre congrégation à nous. Si je vais là-bas, qu'il y a un frère Tanguy, c'est que je suis coincé, quoi. Il y a un frère Charles, il y avait un Charles qui est devenu frère Benoît, il y a un Benoît qui est arrivé, il a dû changer de prénom. Il s'appelait frère Mathieu. Mais les prénoms, on les choisit un peu comme. Mais on peut garder son prénom de baptême s'il n'existe pas. Bien sûr, si aujourd'hui vous rencontrez un film, puisque ça s'est existé, des parents qui ont envie de rencontrer Tarzan qui vient au monastère, on lui changera son prénom parce que Tarzan n'existe pas. Ou Camion. Tarzan ou Camion, oui. Il y a des gens qui donnent n'importe quel prénom à leurs enfants. Tout à fait, mais c'est pas pour vous.
Ah oui, on est
carré. Concrètement, ça veut dire aussi, par rapport à la pauvreté, que nous n'avons ni portable, ni télévision.
Ah, bien sûr.
Non, mais il y avait des soeurs, elles pouvaient toutes les semaines regarder un film.
Oui, mais elles, parce qu'elles ont peut-être une télévision, nous, on ne regarde pas la télévision. On n'a pas de radio. On a des ordinateurs pour nos études. Il y a quelques postes avec Internet. Mais pas plus. Mais pas un par personne. D'abord, Internet, il y a... Allez, je vais dire un pourcentage approximatif, 90% de bêtises. Comme pour la télévision, la télévision c'est 99,99% et 0,001% de choses intelligentes. Je dis ça par expérience parce que la télévision, j'ai trop regardé et pas franchement d'intérêt. Mais ça, c'était exprès. Oh, un peu de silence s'il vous plaît. Je fais exprès de vous dire ça, vous savez pourquoi? Mais attends, deux minutes que je... Parce que je fais un pari avec vous aujourd'hui. Vous revenez dans 15 ou 20 ans. Et vous me direz exactement la même chose que vos parents vous disent. À mon époque, c'était la télévision. Mais vous, ce serait ne regarde pas trop la télévision, ne joue pas trop aux jeux électroniques, ne passe pas trop de temps devant Internet, etc. etc. Je vous fais le pari que dans 15 ou 20 ans, vous faites cette même remarque à vos enfants. Et je suis sûr de gagner, je peux mettre ma main au feu. On n'est pas coupé. Et on a dit, est-ce qu'on est coupé du monde? On n'est pas coupé du monde. Parce qu'on reçoit des autres monastères, parce qu'on reçoit les journaux, on peut lire les journaux. Mais vous savez, lire les journaux, c'est pas très florissant. Il y a 90% de mauvaises nouvelles. C'est pas très moralement intéressant de lire les journaux. Mais je vais attendez, un peu de silence. Je vais revenir à la prière. Est-ce que vous connaissez l'ordre des Chartreux? Ah non, un peu de silence, s'il vous plaît. L'ordre des Chartreux, vous le connaissez? Les Chartreux, c'est pour ceux qui ont vu Le Grand Silence, c'est l'ordre qui est décrit dans le film Le Grand Silence. Ces gens-là, ils sont coupés du monde, beaucoup plus que nous, les bénédictins. Ils ne reçoivent pas de journaux. Leur famille peut venir les voir seulement 48 heures tous les ans. Et je peux vous dire une chose, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas plus coupés du monde que vous ou que moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont la prière. Et je finirai peut-être par dire une chose que je trouve intéressante pour moi, que j'ai découvert en rentrant au monastère. C'est que ma famille, qui ne vient pas trop régulièrement, trois fois l'an, j'ai fait un séjour en Amérique pendant 6 ans. Et je suis rentré chez mes parents parce que je n'ai pas de logement. Et j'ai vécu pendant 2 ans entre un boulot et puis ma recherche au moment où j'ai ma vocation pour la vocation monastique. J'étais chez mes parents, je ne peux pas être plus proche de chez eux. Et aujourd'hui, je suis plus proche d'eux en étant à une centaine de kilomètres de chez eux que je n'étais quand j'étais à la maison. Pourquoi? Parce que je les ai dans la prière. Je suis en lien avec eux dans la prière. Voilà pourquoi. Donc on revient à la prière. La prière est le moyen de rapprocher beaucoup de gens. Je peux prier pour une personne que je ne connais pas. Je peux dire, Seigneur, il y a une personne dans le monde qui souffre, qui a besoin d'aide. Tu peux lui donner ma vie. Je prie pour elle. Et Dieu a besoin de notre prière les uns pour les autres. Ce n'est pas seulement une prière pour ceux qu'on aime. La question.
Non, mais ce qui est pour ressortir, c'est que j'ai au moins les journaux.
Est-ce que vous avez voté?
Nous allons voter, mais je trouve ça très difficile d'aller voter quand on sait que. Quand on sait ce que c'est sur. Quand on sait ce qu'on sait sur la vie politique. Mais bon, qu'en gros, ils sont un peu tous dans le même sac, même s'il y en a qui sont à droite, qui sont à gauche, et que certains sont plus aptes que d'autres à... Et que ceux qui sont les plus aptes à diriger la France ne sont pas forcément ceux qui ont les plus de... qui ont les meilleures idées. C'est un peu le problème de la capacité et des idées derrière. Et de ce qu'ils font et de ce qu'ils feront derrière. Allez, qui c'est qui a posé la dernière question? Un adulte peut-être? Il n'y a pas posé de question, je voudrais poser une question.
Bah, oui, moi j'aurais posé une question. Comment est-ce qu'on arrive au monastère? Comment est-ce qu'on ressent l'appel? Qu'est-ce que vous avez quitté
Comment est-ce qu'on arrive au monastère et comment est-ce que la question en bas? Bon, je suis...
On écoute.
Je suis le 5e de 6 enfants. J'habitais Ville d'Avray, donc pas très loin de chez vous. J'allais à la messe tous les dimanches avec mes parents. Et savez-vous que Dieu, le jour de notre baptême, même le jour de notre conception dans le sein de notre mère, Dieu a un projet sur chacun de nous. Et un projet qui est pour notre bien. Qui veut que nous répondions à son amour. Bon, il s'est passé qu'à 12 ans, j'ai voulu devenir. J'ai ressenti l'appel au sacerdoce, que j'ai mis de côté. À 15 ans, lorsque je faisais partie d'un mouvement de jeunes qui appartient au mouvement Fondation aujourd'hui, qui sont à Versailles, à l'Ermitage, aux ados, la communauté chrétienne d'adolescence, et tout ça existe comme ça. J'ai pu faire une rencontre de Dieu qui a complètement bouleversé ma vie. J'ai fait une rencontre de Dieu, on va dire, en personne. Pas comme vous, physiquement parlant, mais physiquement, réellement, devant moi, dans mon cœur. J'ai pu participer au spectacle d'évangélisation Life and Light dans cette même fondation. D'accord, c'est super. C'est une belle expérience. Hein? Fondation? La FENAC, c'est un spectacle d'évangélisation. Avec des jeunes justement de ce groupe-là de Fondation. J'ai fait ça en Belgique, j'ai fait ça
on écoute parce qu'on a fait beaucoup de temps pour les vêtements.
Voilà. Bon, donc, ça c'est un détail. Après ça, j'ai passé mon bac. L'année de mon bac, alors il ne faut pas faire de camp de jeunes dans ces mouvements-là. Je suis parti faire visiter l'abbaye de Sénanque. J'avais deux oncles moines. L'un était le responsable, l'autre était ermite. Et je dois dire que celui ermite m'a marqué par son sourire. 10 ans après, j'ai compris quelque chose de son sourire. J'ai compris que lorsqu'il regardait les gens qui nous souriaient, c'était un sourire de Dieu qui était visible. Je suis resté en contact avec le moine qui était prieur, qui est devenu ermite. Je lui ai écrit toutes mes questions de jeune. Je suis parti en Amérique, j'ai fait un BTS. Je suis parti en Amérique. Pendant 6 ans, il m'a suivi. J'ai pu poser des questions sur le mariage, le sacerdoce, la vie monastique. Mon passage à Sénanque m'a fait vraiment un bien fou parce que j'ai gardé le virus monastique et je ne veux surtout pas en guérir. Mais essentiellement, là où j'ai perçu l'appel à la vie monastique de manière la plus nette, c'était en Amérique, alors que le Seigneur m'appelait à... Je l'ai tout l'immense à la messe. Je travaillais en semaine, j'avais étudié 5 ans, j'ai obtenu un MBA et j'ai travaillé après ça pendant 9 mois en Pennsylvanie. Et ce qui s'est passé après ça, c'est que j'ai senti un appel, mais sans comprendre, à la messe en semaine. Parce que j'avais quitté mes copains, j'avais quitté les endroits que je connaissais. Donc je suis allé chez moi. Et chez moi, c'est l'église. Si je vais à Hong Kong, au Japon, en Afrique, l'église catholique, même l'église orthodoxe, c'est chez moi, c'est ma maison. Donc je suis à la messe en semaine. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et de fil en aiguille, où j'allais à la messe en semaine, après mon boulot, même quand je finissais tard, ce que j'ai ressenti, alors j'ai senti un dimanche après avoir communié au corps du Christ. Alors vous avez tous communié au corps du Christ, parce que vous allez être confirmés. Alors quand vous irez, et ça c'est une invitation à être très prudent quand vous allez à ouvrir votre cœur quand vous irez recevoir le corps du Christ, à ne pas faire n'importe quoi. J'ai communié et ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Comme si j'avais Dieu qui me disait, est-ce que tu m'aimes? Moi je t'aime. Est-ce que tu acceptes mon amour? Et comment pouvez-vous dire non à une qualité d'amour telle que l'amour de Dieu, qui dépasse largement l'amour d'une petite amie, ou l'amour d'une épouse, ou l'amour de nos parents. L'amour de Dieu est bien au-delà de tout ça. Et tout ça sans un mot. Mais quand Dieu m'a appelé, et que j'ai répondu oui dans mon cœur en silence, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, tu seras moine. J'avais cet appel depuis longtemps, je le travaillais, je me posais des questions. Et à partir du moment où j'ai entendu cette voix, j'ai su que je serais moine et que je serais jeune maman. Je l'ai su. Et bien avant, il y en a pas. Mais après ça, donc c'est pour vous dire, quand vous allez communier au corps du Christ, allez-y avec vos soucis. Allez-y avec votre colère. Allez-y avec votre joie. Allez-y avec votre soif d'être aimé. Donnez tout ça à Jésus, parce que Jésus est pleinement et entièrement présent dans son corps, dans le petit bout de pain qui n'est pas du pain, qui est son corps. Donc quand vous communiez au corps du Christ, vous communiez à Dieu et en plénitude. Alors ouvrez votre cœur et vous aurez de belles surprises. Et si Dieu vous appelle, quelques-uns au sacerdoce, quelques autres, à la vie monastique, n'ayez pas peur, il connaît le chemin, il vous donnera la force. Voilà.
Question. Je crois, non, il faut qu'on s'arrête.
Chacun sa
spécialité. Si vous pouvez nous emmener partout où vous voulez.